Les informations fait l'équipe et la Mondo.
C'est confirmé, Joseph Kabila Kabange et Jean-Pierre Bemba Gombo vont se présenter au second tour des présidentielles. L'arrêt de la Cour suprême de justice est tombé hier, confirmant les résultats publiés le 20 août dernier par la CEI. La société civile de la RDC est satisfaite du déroulement des élections du 30 juillet dernier, malgré quelques faiblesses relevées ça et là. La société civile congolaise qui ne reste pas en si bon chemin puisqu'elle appelle la population à se rendre massivement aux urnes le 29 octobre prochain. La farine, c'est bon, mais lorsque sa qualité ne répond pas aux normes requises, elle doit être détruite. C'est ce qui s'est passé à Lusuishi, au Katanga, où plus de 800 sacs de farine de 50 kg chacun ont été détruits jeudi. Mesdames et messieurs, bonjour. La Cour suprême de justice a proclamé hier les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Elle a ainsi confirmé les chiffres publiés par la Commission électorale indépendante le 20 août dernier. Au cours de la même audience, la Cour suprême a aussi rendu son arrêt sur la requête de la prolongation au 29 octobre prochain du deuxième tour des présidentielles en réponse à la requête introduite par la CEI. René Capita pour les détails.
Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, arrivés en tête du premier tour sans réaliser la majorité absolue, vont se représenter au second tour de la présidentielle. La Cour suprême de justice l'a confirmé après avoir jugé irrécevable ou non fondé les différents recours de contestation du premier tour du scrutin. Pour un autre cas de recours, la Cour s'est déclarée elle-même incompétente. Les résultats définitifs étant proclamés le 15 septembre, le deuxième tour devrait s'organiser le 30 de ce mois, 15 jours après, tel que le prévoit l'article 71 de la Constitution. Mais la Cour suprême a accepté la requête de la CEI qui fixe au 29 octobre ce deuxième tour. La Haute Cour accorde 50 jours à la CEI. Mais quelles sont les raisons qui militent en faveur de cette décision de la Cour? La réponse avec le président de la Cour suprême.
La Cour retient que les conditions liées à la préparation et à l'impression des bulletins de vote en Afrique du Sud, à leur acheminement en République démocratique du Congo et à leur déploiement dans tous les bureaux de vote et de dépouillement du pays sont techniquement irréalisables dans les 15 jours.
Notons que ce délai de 50 jours est à compter à partir du lendemain de la publication des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire demain samedi. C'est donc dans ce délai que la CEI doit fixer la date de la tenue du deuxième tour de la présidentielle.
Du côté de la CEI, l'on se dit satisfait de la décision de la Cour suprême déclarant recevable sa requête de prolongation. Pour la Commission électorale indépendante, la date du 29 octobre reste maintenue pour la tenue du second tour des présidentielles. Elle affirme aussi qu'une bonne partie du matériel électoral commence déjà à arriver dans différents coins du pays. Les rapporteurs de la CEI, Dieudonné Mirimo, est au téléphone des MNC Yakalongi.
C'est un sentiment de satisfaction de la Commission électorale indépendante suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice jugeant recevable la requête introduite le 5 septembre dernier. Comme vous le savez, nous nous trouvions devant un cas de force majeure ne nous permettant pas d'organiser le deuxième tour de présidentiel 15 jours après la publication des résultats définitifs par la Cour suprême de justice. La date du second tour de présidentiel est maintenue au 29 octobre 2006 et nous sommes en train de nous préparer en conséquence pour que cette date puisse nous permettre d'organiser le deuxième tour de présidentiel qui sera combiné avec les élections provinciales. C'est depuis plus d'une semaine que nous avons commencé à réceptionner les kits qui contient les urnes, les isoloirs ainsi que tous les accessoires des bureaux de vote. Dans 4 head web et à partir de là, on a commencé déjà le déploiement vers les 145 territoires et les 21 villes de notre pays. Et demain déjà, nous allons commencer à réceptionner les bulletins de vote que nous allons déployer au fur et à mesure que ça va arriver jusque dans les 50 000 bureaux de vote.
Dieudonné Mirimo Moulongo, rapporteur de la CEI. Processus électoral toujours, la société civile de la RDC s'est dit satisfaite dans l'ensemble du déroulement des élections présidentielles et législatives organisées le 30 juillet dernier. Cette réaction a été annoncée hier vendredi à Kinshasa dans une déclaration commune intervenue au terme d'une évaluation de ces élections congolaises avec la participation de toutes les sociétés civiles provinciales. La société civile congolaise admet qu'il y a eu quelques faiblesses, notamment dans la logistique, mais elle félicite tout de même la Commission électorale indépendante, la Haute Autorité des médias et la communauté internationale pour le travail réalisé en faveur du processus en cours au Congo-Kinshasa. Toujours dans sa déclaration d'hier, la société civile de la RDC appelle la population de se rendre massivement aux urnes lors du second tour. On écoute M. Kibiswa au micro de Dona Madimba Mbaya.
À l'endroit de la population, nous lui demandons de ne pas baisser les bras, d'aller encore une fois massivement voter plus qu'au premier tour, parce que le deuxième tour, c'est vraiment le clou qui va décider de qui va diriger le Congo. Le deuxième tour est le provincial, parce que c'est le provincial qui veut sortir les dirigeants qui vont être proches d'elle. Ceux qui allaient se décourager en disant « nous n'avons plus de candidats, ça ne vaut plus la peine d'aller », qu'ils fassent un choix parmi les deux qui restent et qu'ils décident de voter pour tel parce qu'ils sont contre tel.
Toujours dans cette déclaration, la société civile de la RDC invite les présidents Joseph Kabila Kabange et les vice-présidents Jean-Pierre Bemba Gombo à demander publiquement pardon à la population pour les incidents du 20 au 22 août dernier à Kinshasa. Nous allons parler d'autre chose, mais nous restons sur ces chapitres électoraux. Les universitaires, c'est-à-dire les professeurs et autres recteurs d'université du Congo, veulent à tout prix que le processus de paix en cours en RDC arrive à son terme et que la démocratie s'installe au Congo-Kinshasa. C'est l'une des recommandations sorties à la clôture du conclave du Mont Amba, organisé par les universités du Congo hier vendredi au Grand Hôtel Kinshasa. Ce conclave était centré sur le thème « Élections, paix et développement, prise des positions des universitaires congolais ». Cette rencontre a réuni du 13 au 15 septembre 2006 à l'Université de Kinshasa 85 participants venus de 25 établissements de l'enseignement supérieur du pays. Direction Ituri, en province orientale, à Komanda, localité située à environ 75 km de Bunia, des déplacés manifestent leur volonté de retourner chez eux en vue de participer au second tour du scrutin présidentiel ainsi qu'aux législatives provinciales. Leurs délégués ont exprimé ces souhaits lors de la visite qu'ils ont effectuée mercredi au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bunia. Ces déplacés sollicitent l'appui logistique du HCR pour ce faire. Les détails avec Jean-Claude Bissiliabo.
Selon Ocha Abunia, la localité de Komanda a hébergé 12 000 personnes déplacées, mais beaucoup auraient déjà regagné leur milieu d'origine. Parmi ceux qui sont toujours présents, certains déplorent la rupture de l'assistance humanitaire. D'autres veulent à tout prix rentrer dans leur village d'origine pour participer au second tour des élections présidentielles ainsi qu'aux législatives provinciales. Ils ont exprimé leur volonté de rentrer mercredi dernier au bureau du HCR Abunia. Écoutons Joël Aziba, leur porte-parole.
Nous avons demandé au HCR de nous aider avec le moyen des transports pour retourner chez nous. Après l'entretien qu'on a eu avec la plupart des déplacés, tous ceux qui ont leur carte d'électeur souhaitent rentrer pour voter.
Contactez la chargée de protection du HCR Bunia d'y être informé de la situation. Pour Véronique Nzo, une mission d'évaluation à Komanda, à laquelle devront prendre part d'autres intervenants humanitaires, s'avère nécessaire avant de répondre à la demande de ces déplacés.
Le HCR s'occupe du retour des personnes déplacées? La réponse est oui. Maintenant, ça dépend dans quelles régions ils vont vouloir rentrer. Est-ce que c'est des régions qui sont pour le moment dans la zone opérationnelle des militaires ou pas? On va faire une mission d'évaluation mercredi et après, on va voir avec tous les partenaires comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à leurs souhaits.
Rappelons que c'est depuis le mois de mars dernier que ces déplacés avaient fui les affrontements qui ont opposé les soldats des FRDC aux miliciens du mouvement des révolutionnaires congolais MRC dans les localités de Geti, Aveba et Kagaba. Bunia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Plus de 800 sacs de farine de 50 kilos chacun ont été détruits jeudi à Lusuishi, à plus de 20 km de Lubumbashi, sur la route Likasi. Selon l'Office congolais de contrôle, OCC, la qualité de cette farine ne répondait pas aux normes internationales admises. Ces 800 sacs font partie des 3000 consignés dans les entrepôts de l'Office des douanes et assises de Lubumbashi depuis le mois de juillet dernier par l'OCC. Nous aurons de plus amples informations sur ce sujet dans nos prochaines éditions. À Mbandaka, l'incendie des centaines de maisons au quartier Ikongo-Wassa par les éléments des FRDC est toujours d'actualité. Recueilli par le gouvernorat des provinces, certaines victimes passent la nuit dans la salle des réunions du bâtiment administratif. Les rappels des faits dans ce reportage est signé Jean-Pierre Liboulamopolo.
Nous sommes jeudi 14 septembre 2006. Les habitants du quartier Ikongo-Wassa ont passé une nuit sans incident. Aux environs de 10 heures, une pluie torrentielle s'abat sur toute la ville. C'est juste en ce moment qu'une colonne de militaires fait irruption dans les quartiers Botukutu et Ikongo-Wassa 3 et brûle les maisons. Alphonse Kabela, conservateur provincial des titres immobiliers, indique que ces terrains ont été officiellement lotis par l'autorité compétente. La plupart des victimes sinistrées par ces déguerpissements, ajoutent les conservateurs et Kabila, sont en règle vis-à-vis de l'État et détiennent les titres de propriété. Bien que situé à proximité du camp militaire, les autorités provinciales affirment que ces lieux ne constituent plus un domaine militaire. Ernest Bokula, vice-gouverneur de province, parle d'un manque d'informations de la part de l'actuel commandant 3e région militaire.
Le prédécesseur jouait, si vous voulez, à ce moment-là, un double rôle. Il avait deux casquettes. Il était en même temps gouverneur de province. Et en tant que gouverneur de province, s'il avait pris un arrêté de désaffectation, cet arrêté demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est la continuité dans l'administration.
Pour sa part, le gouverneur de province a invité le commandant 3e région militaire pour examiner la question et trouver une solution au problème humanitaire qui se pose déjà pour la gestion des sorts des sinistrés. Mbandaka, Jean-Michel Liboulamopolo, Radio Okapi.
Voilà, vous l'aurez corrigé, il s'agit de Jean-Michel Liboulamopolo et non pas de Jean-Pierre Liboulamopolo, comme je viens de le dire tantôt. Province orientale, 64 familles de rapatriés venues du Soudan ont reçu jeudi des lopins de terre pour leur réinsertion. La mairie a accepté de donner à chacune des familles une parcelle d'une superficie de 25 mètres sur 18 dans la cité canadienne sur la rive droite de la Tchopo, au nord de la ville de Kisangani. Les ACR a mis à leur disposition 50 000 dollars américains pour la construction des habitations. Simone Bonny, administratrice des services communautaires du ACR Arou, est au micro de Dorcas Kanko.
Nous allons les construire des maisons, juste un abri, parce que jusque-là, ils dormaient à la Belle Étoile. Nous avons une mesure d'une chambre-salon que nous allons offrir avec des matériaux locaux en paille. Il faut insister sur la participation de ces rapatriés eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui vont construire et nous, on les appuie en matériaux locaux. Notre partenaire Oxfam sera sur place ici pour pouvoir suivre les activités de construction. Et donc, en fonction des capacités de tout un chacun, déjà à partir de demain, ils peuvent commencer même les constructions. En plus de cela, dès qu'ils commencent à s'installer. On a prévu aussi des activités génératrices de revenus. Nous avons ciblé surtout ceux-là qui étaient formés déjà au Soudan. Il y avait déjà des pêcheurs, il y avait des maçons, il y avait des menuisiers. Donc nous allons leur donner des petits équipements pour pouvoir exercer des activités lucratives.
Simone Bonny, administratrice des services communautaires du HCR Arou. Au Nord Kivu, la troisième session de brassage a pris fin hier vendredi à Rumangabo, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma. Au moins 4000 soldats issus des différentes ex-composantes viennent de terminer 5 mois de formation. Ces militaires vont constituer la nouvelle 14e brigade intégrée. Les cérémonies sanctionnant la fin de cette session de brassage se sont déroulées hier en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, congolaises et étrangères. Gisèle Cage pour le reportage.
Ils étaient exactement 4150 éléments venus de toutes les composantes du gouvernement et majoritairement du RCD Goma. Leur formation aura duré 5 mois au lieu de 45 jours. Selon le général Mbuyi Moussamou, commandant intérimaire de la 8e région militaire, c'est pour des raisons de logistique, surtout au début de la session, où il était difficile de faire voyager des troupes jusqu'à Rumangabo. Personne parmi les militaires brassés n'a voulu parler aux journalistes, mais à travers plusieurs numéros de démonstration exhibés devant les autorités, on pouvait percevoir la ferme volonté qui les animait de servir partout en RDC, à travers l'armée nationale, les FARDC. Selon le ministre de la Défense, Adolphe Onusumba, les éléments de la 14e brigade infanterie intégrée devraient d'abord prester en Nord Kivu pour contribuer à la stabilisation de la sécurité générale de la province. Leur commandant, le colonel David Rogaï, est d'ailleurs natif du Nord Kivu. Les autorités civiles et militaires présentes ce vendredi à Rumangabo n'ont cependant rien dit sur l'après cette 3e session de Rumangabo dans la province du Nord Kivu, où certaines troupes ne cachent pas leur résistance au processus de brassage. Gisèle Kachgoma, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, les tracasseries se portent bien dans les ports de Bukavu. Ce constat est du bourgmestre de la commune de Kadutu. Plusieurs passagers en provenance de Goma et Idjui se plaignent des tracasseries à l'accostage des navires. Chaque colis ne peut être amené du port sans payer une taxe de 100 à 150 francs. Certains passagers sont aussi soumis au même traitement. Une pléthore des services étatiques, des militaires et des policiers qui inquiètent les passagers. Serge Maéché pour le reportage.
Voyager par bateau sur le lac Kivu est un vrai plaisir. Le paysage est beau. Une fois au port, tout change. La situation est critique. Au débarquement comme en embarquement, plusieurs policiers, Des militaires et des services de l'État forment un cordon, tous pour fouiller les bagages. Mais au grand regret de voyageurs, ils font payer 100 à 200 francs congolais pour laisser passer les nouveaux arrivants. Écoutons Accenti Bouendoua, un passager qui se plaint de frais payés au débarquement.
Vous n'allez pas 200 francs.
Je viens de payer 200 francs. Premièrement, j'ai payé au premier groupe en première ligne. Ensuite, j'ai payé à la porte de sortie. En tout, je viens de payer 400 francs. Les jours où cette pratique de faire payer aux passagers 100 à 200 francs aura cessé, nous dirons merci.
Interrogé à ce sujet, le commandant des forces navales déplore cette situation. Il affirme avoir demandé aux usagers de ne pas payer ses frais sans quittance. Major Emmanuel Gamani.
J'avais dressé une note qui interdisait les taxations des militaires vis-à-vis de nos compatriotes qui naviguent sur les lacs. Je leur ai demandé en cas d'une pareille situation qui me signale et comme ça que je sache qui a fait quoi et prendre des mesures.
Par ailleurs, selon le bourgmestre de la commune de Kadutu, seuls 4 services, y compris la force navale, peuvent fonctionner dans différents ports de Bukavu. Il s'agit de la DGM, l'ANR et les services de l'import-export. Bukavu, Serge Maéché, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Et prochain rendez-vous avec les informations. Ce sera autour de 9h, heure de Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Vous pouvez retrouver ce journal sur www.radiokapi.net.